Madame Figaro.
Elle a d'abord été célèbre pour les cris puissants qu'elle poussait sur le court en frappant la balle. Les joueuses de tennis le font tout ou presque aujourd'hui, mais Monica Seles, dans les années 90, c'est une pionnière. Mais on se rappelle aussi de la championne yougoslave pour ce jour d'avril 1993 et cette agression dont elle est victime en plein match. Dans le cadre d'une nouvelle mini-série de scandales consacrée aux grandes affaires qui ont entaché le monde du sport, la journaliste Camille Maestracci revient sur cette agression. Que s'est-il exactement passé sur le court ce jour-là? Qui est cet homme armé d'un couteau qui arrive de nulle part? Et dans quel état Monica Seles va-t-elle sortir de toute cette histoire? Je suis Marion Galli-Ramouno, bienvenue dans Scandale.
A terrific program for Tanya Harding.
Did O.J. Simpson commit murder?
Coupable d'homicide involontaire.
She was a teenage champion and then her life took a dramatic turn.
Please welcome the extraordinary Simone Biles.
Oh, isn't that great?
This guy put a knife in my back.
Left-handed hook shot.
He was beating you and abusing you.
Oscar Pistorius has been arrested for allegedly killing his girlfriend.
All I can say is the athletes did not look happy.
Monica Seles baigne dans le sport depuis sa naissance. Son père, Caroli, était un ancien athlète de triple saut et son frère est un joueur de tennis junior quand elle commence le tennis vers l'âge de 5 ans. C'est d'ailleurs en voulant l'imiter qu'elle y prend goût à son tour. Son père s'improvise entraîneur et il lui donne une raquette d'adulte qu'elle trouve trop lourde. C'est comme ça qu'elle prend l'habitude de la tenir à deux mains, en revers comme en coup droit, ce qui deviendra sa marque de fabrique. C'est en Serbie, encore appelée Yougoslavie à l'époque, que la jeune Monica grandit et fait ses premières compétitions juniors. En 1985, à 12 ans, elle gagne un tournoi en Floride et est repérée par le célèbre entraîneur de tennis, Nick Bollettieri. L'année suivante, elle s'installe aux États-Unis avec sa famille pour suivre ses entraînements intensifs. Dominique Bonneau, ancienne journaliste à l'Équipe, est autrice du livre « N'oublie pas de gagner » sur les coulisses du tennis féminin. Elle a assisté au tout début de Monica Seles.
Je l'avais vue dans un tournoi pour les enfants qui avait lieu à Disneyland, en Californie. C'était un tournoi qui réunissait les meilleurs moins de 14 ans de la planète. Et là, il y avait Seles, il y avait Michael Chang qui a gagné Roland-Garros, il y avait Pete Sampras, il y avait Jim Courier. Il y avait plein de futurs champions qui étaient là. On ne le savait pas, évidemment. Ils avaient moins de 14 ans. Et puis elle était marrante parce qu'on aurait dit une petite souris. Elle était déjà un petit peu rondelette, avec un petit visage pointu, toujours à sourire. Et puis, elle avait une façon de jouer qui sortait de nulle part, parce qu'elle était, d'abord, elle était gauchère. Et en fait, elle tapait la balle très, très tôt. Elle prenait la balle très, très tôt, ce qui fait qu'elle prenait le contrôle du jeu tout de suite, à deux mains des deux côtés, même en coup droit. Et donc, j'avais été frappée par cette petite nana. Et il y avait sa famille. Et je suis allée voir le père.
Le père de Monica Seles deviendra d'ailleurs un pilier dans sa carrière. Très investi, mais contrairement à d'autres figures paternelles dans le monde du sport, jamais brutal ni envahissant.
Il me dit qu'il est dessinateur de dessins animés. Donc je lui dis, vous pourriez me dessiner Monica aujourd'hui, comment vous la voyez-vous? Et il me dit, oui, je peux le faire, bien sûr. Il rigole, il prend mon cahier et il met un landau un peu à l'anglaise, là. Il la place au milieu, un peu toute bébé, avec le petit chapeau de bébé et une petite raquette qui sort un peu du landau. Et puis il dit, voilà, c'est ça, Monica, c'est encore une enfant, mais qui s'amuse en jouant au tennis avec la balle et la raquette. Et vraiment, il lui avait dessiné pour l'amuser des Tom et Jerry sur les balles. Et il jouait avec elle et en fait, il lui disait « Mais écrabouille-les, écrabouille-les, écrabouille Tom, écrabouille Jerry. » Et en fait, ils ont mis dans leurs entraînements la même intensité et le même fun un peu que dans Tom et Jerry. Et en fait, elle s'est mise à jouer dans cet esprit-là.
Malheureusement, l'enthousiasme et le naturel de Monica Seles ne font pas l'unanimité. Lorsqu'elle joue son premier Roland-Garros, à seulement 15 ans, son attitude dénote avec le sérieux et l'esprit compétitif de ses adversaires.
Et en plus, elle n'arrête pas de rigoler, elle a un rire épouvantable, ce qui était vrai, elle avait un rire épouvantable, mais parce qu'elle était gamine, quoi. Et elle a cru bien faire, parce qu'en fait, elle est arrivée en demi-finale. Et elle joue contre Zina Garrison, qui était hyper sérieuse, assez complexée, assez compliquée. Une fille pas très à l'aise, quoi, avec le public, avec les gens. Et elle est arrivée, Monica, comme elle avait été bien encouragée, elle est arrivée avec un grand bouquet pour remercier les spectateurs, pour remercier le public. Elle voulait donner des fleurs au public. Et là, l'autre, elle a dit « Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette fille? Mais pour qui elle se prend ?» Parce que normalement, un bouquet sur le central, c'est la gagnante, quoi, qui se balade avec un bouquet. C'est pas une petite joueuse comme ça qui arrive avec son bouquet. Donc déjà, là, elle a pris cher.
Ses performances sportives, en revanche, mettent tout le monde d'accord. L'année suivante, à 16 ans, elle remporte son premier Roland-Garros. 3 ans plus tard, à 19 ans, elle a déjà 8 victoires de tournoi du Grand Chelem à son palmarès et devient la plus jeune numéro 1 mondiale de l'histoire. L'autre particularité de Monica Seles, vous vous en souvenez peut-être, c'était ses cris, voire ses grognements lorsqu'elle frappait la balle. Comme ici, en 1993, lors d'un match contre Steffi Graf, qu'elle finira par remporter. Dans une interview quelques années plus tard, elle explique d'où ça lui vient.
Je pousse ces grognements depuis que j'ai 7 ou 8 ans, je pense. En fait, quand j'étais une petite fille, à cette époque, il n'y avait pas de raquette pour enfants. Alors mon père m'a juste donné sa raquette pour jouer. J'étais vraiment petite et j'y ai mis toute mon énergie juste pour réussir à tenir la raquette. Et si vous regardez des vidéos de moi à ce moment-là, je poussais déjà des grognements chez les juniors. Pour moi, c'était pas vraiment un problème, jusqu'à ce que je devienne numéro 1. Et après, je pense que les concurrents essayent toujours de trouver des failles, car en fin de compte, c'est un monde extrêmement compétitif.
À mesure que Monica Seles gagne des matchs et des tournois, elle commence à faire sérieusement de l'ombre à son adversaire numéro 1, l'Allemande Steffi Graf, de 4 ans son aînée, et qui jusqu'à la fin des années 80, à 19-20 ans, domine complètement le circuit. Si la rivalité sportive est incontestable, l'animosité, voire le duel qui s'installe entre les deux femmes, est construit de toutes pièces par les médias et le grand public. Steffi Graf dans le rôle de la belle, et Monica Seles qui devient le vilain petit canard.
Elle n'était pas sexy alors qu'on voulait que des sexy. Elle n'était pas charmeuse, elle n'était pas comme les standards des super joueuses qui étaient à la fois belles et fortes, quoi. Et puis en plus, elle n'était pas athlétique, parce qu'elle avait une super force, elle avait une puissance incroyable, elle mettait les filles à 10 mètres de la balle, mais elle-même, elle n'était pas très athlétique, elle avait des jambes normales, pas musclées, une démarche qui n'était pas super élégante. Tout le monde était pâmé devant Steffi Graf, parce que les jambes de Steffi Graf, la classe de Steffi Graf, la beauté de Steffi Graf, le jeu de Steffi Graf, c'était Mrs. Perfect.
Il y a un homme en particulier qui nourrit une obsession maladive pour la joueuse allemande. Il s'appelle Günther Parch. C'est un ancien ouvrier d'Allemagne de l'Est, un peu perdu, au chômage, et qui commence à vouer un véritable culte à Steffi Graf. Il lui envoie des lettres, des enveloppes, avec de l'argent même, et regarde religieusement tous ses matchs.
Il y avait des photos de Steffi partout, des posters partout, etc. On l'a su après. Et puis, il l'aimait. Et en fait, Céleste, quand elle arrive avec ses gros sabots, je dirais, et sa candeur de gamine, et elle bat Steffi Graf en finale de Roland-Garros pour son premier titre. Après, elle va la rebattre plusieurs fois, et après, elle va lui rafler la place de numéro 1. Elle va devenir numéro 1 à la place de Steffi Graf.
Pour Günther Parch, c'est insupportable. Alors, un matin d'avril 93, il saute dans un train pour se rendre au tournoi de Hambourg, auquel participent Steffi Graf et Monica Seles. Dans son sac, il prend soin d'emporter un couteau à désosser.
Il arrive à Hambourg et là, il assistait à tous les entraînements de Seles. Du bas des tribunes, il était au premier rang. On voit même, sur des caméras, on le voit qui passe. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien. Le 30 avril 93, il est là et elle joue contre une Bulgare, Maleva. Donc elle joue et puis à un moment donné, à un tournant, parce que Monica, elle mettait toujours sa serviette sur sa tête pour se couper de tout au changement de côté, vous savez, elle changeait, elle s'asseyait, elle mettait ça. C'était des rituels hein, qu'elle s'était inventé. C'est une des premières aussi à avoir inventé comme ça ces rituels qui vous laissent dans l'instant, qui vous laissent dans le match. Vous n'êtes pas distrait par rien, vous n'entendez rien, elle est dans sa bulle. Elle était donc dans sa bulle et là, elle ressent un truc énorme. Elle se retourne, elle voit du sang sur sa chemise et elle comprend même pas ce qui lui est arrivé. Et là, bon, c'est la panique, voilà, on court après le mec. Elle s'évanouit à moitié, on la rassoit. Enfin, c'est une catastrophe ce qui se passe dans les instants qui suivent.
Parmi les personnes qui accourent auprès de Monica Seles, il y a Madeleine van Zolen, sa physiothérapeute de l'époque. Plus de 30 ans après, elle a accepté de nous raconter les coulisses de ce moment qui restera à tout jamais gravé dans l'histoire du tennis.
C'était une journée ensoleillée. Monica a joué le dernier match de la journée contre Magdalena Malifa. Je me souviens particulièrement de cette date parce que c'était le 30 avril, la journée de la reine en Hollande. C'est une grande fête, tout le monde est en orange dans les rues. J'étais là, ici, et en même temps, tout le monde faisait la fête à Amsterdam et dans toute la Hollande. C'est pour ça que je m'en souviens très bien. Et je me disais, ok, c'est le dernier match. Après cela, on ira dîner avec le groupe ou quelque chose dans le genre. Et c'était 4 jeux à 3 au deuxième set. Et donc, je me suis dit, ok, eh ben, ça ne prendra probablement plus si longtemps. Et puis, quelque chose s'est produit. J'étais dans la salle de presse. Et parce qu'on avait des écrans partout sur le court, quelqu'un a dit, que se passe-t-il là-bas sur le terrain? Alors, on a regardé la télévision et puis j'ai dit, je pense que je dois y aller. Je ne suis pas sûre de ce qui est en train de se passer, mais je dois aller sur le terrain. Je suis sortie et j'ai été sur le court.
Sur les images qui retransmettent la scène en direct, on voit Monica Seles. Elle est habillée tout en blanc, elle se tient le bas de la nuque et Madeleine accourt vers elle. Monica chancelle et finit par s'asseoir par terre, soutenue par Madeleine et deux autres personnes. Monica grimace, elle tousse, puis ses yeux s'égarent, un peu comme si elle perdait connaissance. Il y a désormais 4-5 personnes autour d'elle qui lui parlent et tentent de la maintenir éveillée. Elle essaye de prendre de grandes inspirations, mais elle finit par se mettre à sangloter.
On a entendu des gens crier et hurler, et on l'a entendu, elle. Elle a poussé un grand cri. Ça a attiré l'attention. J'ai dit, il y a quelque chose de bizarre. C'est étrange, ce n'est pas normal. Et puis, je l'ai vue assise là, sur la terre battue. Je l'ai rejoint immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qu'il se passait. Quand je suis allée sur le terrain, j'ai entendu quelqu'un dire qu'elle avait été poignardée avec un couteau. Son entraîneur était présent, ainsi que son frère. Et là, on a essayé de l'aider. L'arbitre lui tenait la serviette dans le dos. Elle était paniquée. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé et elle avait très, très peur. Elle a commencé à respirer différemment. Elle hyperventilait. Je l'ai aidée et je lui ai dit « Ok, calme-toi, détends-toi. Quelqu'un va venir t'aider. » Parce qu'on avait appelé le médecin et l'ambulance et on les attendait. Et j'ai essayé de la calmer.
L'ambulance arrive et emmène Monica Seles à l'hôpital. Madeleine décide de rester auprès d'elle.
On ne savait pas à quel point c'était grave à ce moment-là. Donc, on ne pense pas. On tient bon, on prend simplement soin d'elle et on la fait se sentir plus à l'aise. Parce qu'elle respire encore et que son corps ne fait pas de choses bizarres. Disons-le comme ça. Alors là, je me suis dit, ok, ça ne devrait pas être trop grave normalement. Et bien sûr, on est allé à l'hôpital et je suis contente d'y être allée en tant que physio, car je parle aussi allemand. Ça a donc beaucoup aidé à l'hôpital, pour elle et pour le médecin. Je suis restée avec elle tout le temps.
La blessure de Monica Seles n'est pas très profonde. On lui fait quelques points de suture et elle passe la nuit à l'hôpital en observation. Madeleine, elle, rentre à son hôtel dans la soirée.
C'était tellement bizarre. Je tremblais. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et oui, j'étais sous le choc, sincèrement, que ça puisse arriver et que ce soit arrivé. Puis plus tard, Steffi Graf m'a appelé pour me demander comment allait Monica et si elle pouvait lui rendre visite le lendemain. J'ai dit « Oui, bien sûr ». Alors le lendemain, je suis allée avec Steffi Graf à l'hôpital. Je suis allée avec elle dans la chambre et elles étaient très émues toutes les deux. Elles se sont vues et elles ont un peu discuté. Et je suis restée là, puis je les ai laissées seules et je suis revenue. Monica allait bien, mais elle était émue. Et Steffi aussi.
Quelques années plus tard, sur une chaîne australienne, Steffi Graf revient sur le sentiment de culpabilité qu'elle a éprouvé après l'incident.
C'était une période vraiment difficile pour moi. Je pense qu'il a vraiment fallu 7, 8 mois pour vraiment que je m'en remette. Ça me fait encore plus mal d'en parler, sachant que cette personne l'a fait pour moi.
Mais vous ne pouvez tout de même pas vous en vouloir.
Je pense qu'il est difficile de dire que je suis coupable, parce que je sais que je ne l'ai pas fait, mais c'était un peu comme si j'en étais la cause. Vous savez, je me suis vraiment sentie mal.
Quant à Günther Parch, il est rapidement immobilisé. Sur les vidéos, et c'est assez impressionnant, on voit un homme qui l'attrape en lui serrant la gorge. Des agents de sécurité, mais aussi des hommes du public, le traînent dehors. Il restera en détention jusqu'à son procès 6 mois plus tard, où il bénéficiera de circonstances atténuantes dues à son état psychiatrique et écopera de 2 ans de prison avec sursis. Monica Seles, elle, ne se remettra jamais vraiment de cette violente agression. Selon Asia Hamdi, journaliste sportive, spécialiste des femmes dans le sport, c'est le début de la fin pour la joueuse de tennis.
Cette agression, elle a détruit Monica Seles à la fois physiquement, mais surtout mentalement, en fait. Mentalement, parce qu'elle a fini en dépression et surtout, elle n'est jamais revenue à son meilleur niveau. Elle a quand même fait 4 finales en Grand Chelem jusqu'à 2003, mais elle n'a jamais vraiment repris son niveau d'antan. Et on peut se demander ce qui se serait passé, effectivement, sans cette agression qui vraiment a véritablement détruit sa carrière. Ça reste, je pense, l'un des événements les plus marquants de l'histoire, si ce n'est le plus marquant de l'histoire du tennis au féminin.
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à ce moment-là, la WTA, donc la Women's Tennis Association, l'organe qui gère les tournois, a organisé un vote auprès des 10 premières joueuses mondiales du classement. La question c'était, êtes-vous d'accord pour maintenir Monica Seles en position de numéro 1 le temps de sa convalescence? Et aussi incroyable que ça puisse paraître, toutes les filles ont répondu non. Sauf une qui s'est abstenue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence pour Monica Seles. Aucune empathie, aucune solidarité, c'était vraiment chacune pour soi et que la meilleure gagne. En plus de ça, la joueuse est lâchée par plusieurs sponsors, perdant ainsi des centaines de milliers de dollars de contrats. Elle se cloître alors dans sa résidence en Floride malgré les hélicoptères qui survolent sa maison pour tenter de l'apercevoir. Encore traumatisée par l'attaque et blessée par les réactions rudes autour d'elle, Monica Seles se réfugie dans la nourriture et développe des comportements boulimiques. En réalité, ces troubles alimentaires ne sont que les symptômes d'une véritable dépression qui durera près de 2 ans. Lorsqu'elle revient sur les courts en 1995, elle reçoit une standing ovation.
En ce moment, une vue en direct du stade ici au National Tennis Center alors que les fans se déplacent pour voir Monica Seles. Elle entre sur le court pour la première fois depuis 1992 lorsqu'elle a remporté son 2e titre consécutif à l'US Open. Et la voilà!
Monica Seles est de retour, mais ce n'est plus tout à fait la même. Son visage s'est refermé, son corps s'est arrondi. Le monde entier la scrute et ne se prive pas de commentaires sur son poids et sur son niveau en berne. Pour autant, un an plus tard, contre toute attente, Monica Seles prend sa revanche sur le monde entier et remporte l'Open d'Australie en 96. Asia Hamdi.
Ça me rappelle aussi ce qu'on a pu voir avec Marion Bartoli sur la question du poids, sur la question de... On rappelle que Marion Bartoli a quand même gagné un tournoi du Grand Chelem. Hein, ça c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais quand on pense à Marion Bartoli aujourd'hui, on pense surtout à ses problèmes de poids et aussi à toutes les critiques qu'elle a subies. Je pense que les moqueries ont aussi accentué cette difficulté à revenir au plus haut niveau. Puis elle cognait fort en plus. Hein, c'était un peu ce qu'a subi aussi Serena. Hein. Au tennis, il fallait quand même être belle, il fallait être élégante, il fallait être gracieuse. Et à partir du moment où on tape fort ou qu'on est un petit peu, on a un peu de muscle, qu'on est un peu forte, et ben on est moqué.
À ce moment-là, comme pour se racheter, la WTA accepte de lui redonner son classement de numéro 1 mondial, qu'elle partagera ex aequo avec Steffi Graf. Elle le conserve pendant plus d'un an, mais elle ne va plus remporter aucun grand chelem par la suite. En 2003, à 30 ans, Monica Seles annonce officiellement prendre sa retraite sportive et se consacre à de nouvelles activités.
Alors, elle est passée par la photo. Elle a écrit des bouquins. Elle a écrit pour les enfants. Elle a raconté aux petites filles qui voulaient devenir des championnes des petits romans de ce qui se passait sur le circuit, comment c'était, etc. Et après, elle a écrit un livre sur l'addiction de la boulimie, etc. Quand je l'ai recroisée, je lui avais demandé si elle était arrivée au bout du bout et qu'enfin, elle était apaisée. C'était il y a 4-5 ans, donc elle avait 45 ans. Elle m'a dit oui, ça y est.
Quand on voit Monica Seles aujourd'hui, du haut de son 1m78, très fine, en tenue de yoga ou en robe à fleurs, avec son brushing travaillé et ses yeux clairs, on se croirait devant une ancienne mannequin. En 2014, elle s'est mariée avec un richissime homme d'affaires américain, Tom Golisano, qui a 32 ans de plus qu'elle. Oui, 32 ans. Elle n'a pas d'enfant. Lui en a deux, d'un précédent mariage.
Après, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était devenue citoyenne américaine. Elle a demandé la nationalité hongroise pour faire honneur à sa mère. Et voilà. Et en fait, elle a réglé tous ses problèmes. Tout ce qu'il avait fait souffrir, elle a tout réglé. Et là, après, elle rencontre un homme beaucoup plus âgé qu'elle, richissime, voilà. Et elle nous finit l'histoire à 50 ans, totalement épanouie, assez rigolote, avec des bonnes copines et un amoureux. Je trouve que l'histoire, elle est chouette.
Longtemps, Monica Seles s'est demandé « Et si ?» Et si je n'avais pas été attaquée? Et si rien de tout cela n'était arrivé? Avec les années, elle a réussi à faire la paix avec son destin. Dans sa biographie publiée en 2009, elle raconte, je cite, « son histoire sur le chemin du bonheur ». Et elle écrit. Ça a été un long voyage, tortueux, exaltant, avec quelques retours en arrière, mais ça en valait la peine. Je suis enfin à l'endroit où je voulais arriver depuis toutes ces années. Je suis Marion Galli-Ramouneau et vous venez d'écouter le troisième épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré à quelques sombres affaires qui ont terni le monde du sport, écrite par Camille Maestrachi. Adèle Lécharny a apporté son aide à la production. À la prise de son, Erwan Jamet. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, vous abonner à Scandale si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, on replonge dans la vie privée de Tiger Woods entre addiction au sexe, adultère et désintox.